l'émission Écho de la solidarité internationale, présentée par la Maison des territoires du monde et de la solidarité internationale.
Eh bien, bonjour à tous et nous revoici dans ces studios si accueillants de la radio FM+. Voilà, et aujourd'hui, je vais vous emmener avec mon invité au Maghreb et nous allons parler de littérature. Voilà, donc je pense que ça va vous donner des occasions peut-être de vous documenter et de continuer ce voyage avec des livres. Voilà, donc je reçois aujourd'hui Monique Serrouchaïbi.
Bonjour.
Bonjour Monique, qui vient nous parler donc littérature et Dieu sait qu'elle en connaît un rayon. Voilà, donc Monique, je te donne la parole, à toi la parole.
Alors avant d'arriver sur le Maghreb,
oui,
on va commencer déjà à annoncer la venue de Karim Khatan, oui, l'auteur palestinien, c'est ça?
Oui, d'accord.
Ouais. Qui vient au 13 vents le 2. Donc je vous recommande d'aller l'écouter, c'est un écrivain et poète d'exception qui avait été invité en 2024 par Alain Damasio lors de la comédie du livre et qui est revenu l'année suivante. Donc ceux et celles qui ne l'ont pas encore entendu, je vous recommande d'aller l'écouter.
Oui, c'est une période d'ailleurs où on se sent quand même dans cet esprit de solidarité.
Et Karim Khatan, pardon, je t'ai coupé, oui, je suis désolée. Non. Karim Khatan avait participé au recueil de Chèvrefeuille étoilée,
oui,
Paroles pour une paix en terre de Palestine. C'est
voilà,
comme ça qu'on l'avait
C'est un, qui est un connu. Recueil très riche. Hein,
voilà, il nous avait offert un superbe poème pour
d'accord,
ce recueil.
Ok. Alors, sinon, voilà en route.
Alors,
tu nous parles de...
Alors, je voulais déjà, avant de parler de l'auteur qui va venir le 9 avril ici, dans les locaux du Carrousel, je voulais quand même parler de la littérature du Maghreb, parce qu'en ce moment, quand on en parle, on ne parle que de deux, trois auteurs, pas forcément les meilleurs, et on oublie que c'est une littérature extrêmement riche, et qu'il y a 5 pays au Maghreb, mais je ne vais pas parler de tous les auteurs qu'il faut lire, et de tout le Maghreb, parce que comme nous allons accueillir un auteur d'Algérie, je vais me contenter de la littérature algérienne et de quelques noms. Donc ce sont les associations Baraka et France-Algérie Occitanie qui vont accueillir Ahmed Thiab, qui a écrit 7 livres policiers et 2 autres qui ne sont pas policiers et qui sont tous aussi intéressants les uns que les autres. Et avant donc de parler d'Ahmed particulièrement, je vais rappeler que Mouloud Feraoun, Taos Amrouche, Assia Djebar, Kateb Yassine, Rachid Moumouni sont des très grands auteurs parmi ceux qui ont disparu, mais qu'il y a actuellement, toujours vivants et qui produisent d'excellents livres. Il y a Anouar Ben Malek, qui a été d'ailleurs cité comme le Kateb Yassine actuel, que l'on a même proposé parfois pour le Nobel. Il y a Maïssa Bey, qui est d'ailleurs aussi une des créatrices de la maison d'édition Chèvrefeuille étoilée. Yahya Belaskri, Leila Sebar, Akli Tadjer, bref, il y en a énormément. Tous ceux que j'ai cités sont des francophones, mais il y a aussi les arabophones, dont malheureusement on n'a pas forcément les romans de ce côté de la Méditerranée, mais je peux en citer au moins un, Wassini Laredj, qui est un excellent écrivain. Donc voilà, je vous ai fait une toute petite liste, mais intéressez-vous au Maghreb, il y a de quoi lire.
Et à la littérature, donc particulièrement
voilà,
maghrébine, voilà. Et les auteurs, les éditeurs, il y a Chèvrefeuille étoilée, je suppose, et puis sinon, c'est un petit peu...
Ah ben, il y a un peu de tout, ouais, oui, il y a la thèse, il y en a
ouais,
plein.
D'accord, ok.
Donc, et puis si jamais vous êtes à Paris quand il y a un Maghreb des livres, n'hésitez pas à y aller. Là où vous avez entre 150 et 200 écrivains du Maghreb ou qui écrivent sur le Maghreb, et c'est un moment assez particulier et chaleureux.
Le Maghreb des livres, ça se passe où en général?
À l'Hôtel de Ville de Paris.
Ah oui, carrément, c'est facile à trouver là, du coup.
Alors, on va en revenir à Ahmed Thiab, donc, qui sera là le 9 à 18h30 au Carrousel, et qui vient de sortir son 7e roman policier. Nous, avec Coup de soleil, on l'avait reçu pour son premier roman, le français de Roseville, parce que nous lui avions donné le prix coup de cœur. À cette époque, on avait des prix annuels, on choisissait un auteur et on le faisait venir. Donc, on avait fait venir Ametia pour ce roman. C'est une histoire donc policière, comme je l'ai dit. C'est lors d'un chantier, on retrouve deux cadavres, dont l'un a un pendentif avec une croix chrétienne. Et on va remonter à la guerre d'Algérie et pour trouver qui sont ces deux personnes et pourquoi ils ont été enfouis dans la terre. Ça se passe à Oran, la ville de naissance d'Ahmed Thiap, qui aujourd'hui vit en France et qui est professeur d'espagnol et d'anglais, qui est aussi musicien, enfin qui a plein de cordes à son arc. Et dans ce livre, on fait la connaissance de Kamel Fadil, qui est son flic, qui est flanqué d'une mère assez particulière, une mère qui fume le cigare parce qu'elle a eu une aventure avec Che Guevara. Et puis, il a aussi une compagne qui est venue du Nigeria après avoir traversé le désert. Et on retrouve l'histoire de cette jeune femme dans un des volumes qui s'appelle « Le désert ou la mer ». On peut les lire éventuellement dans un ordre différent, ce n'est pas trop grave. Et puis, ce Kamel Fadil, il a des amis qui sont flics à Marseille. Il y a Franck Massonnier et son compagnon Lotfi Benatar, que l'on retrouve dès le départ. Ils ont souvent des enquêtes qui sont communes. Et puis petit à petit, on va quitter l'Algérie et Kamel pour s'attacher beaucoup plus à Lotfi Benatar. Lotfi Benatar qui vit donc avec son commissaire et qui est un personnage très charismatique, qui malheureusement, lors d'une enquête qui a trait où les responsables sont des djihadistes, son compagnon est tué et lui en sort meurtri. Physiquement, il marche avec une canne après cet accident, mais il est aussi cabossé au niveau psychologique. Donc, on le retrouve ici avec ce dernier opus. Alors, je vais vous lire le résumé, comme ça, ça m'évitera de bafouiller. Alors, Victor De Luca, petit truand au cœur tendre et au lourd dossier judiciaire, et Lourdes Manzanares, bimbo psychopathe, fine manieuse de l'âme, sont à la recherche de gros coups qui leur permettraient de quitter les froideurs du Nord pour le soleil de la Côte d'Azur. Leur route croise celle de Lotfi Benatar, inspecteur de la PJ de Marseille, un flic balafré dans sa chair et dans son âme, que le destin envoie enquêter entre Amiens et les marais de la Somme sur l'assassinat d'un chef de la police municipale, le tout sur fond de trafic de drogue. Dans les plaines humides de Picardie, les trajectoires vont se percuter, s'entremêler et converger vers un dénouement aussi brutal qu'inéluctable. « Vous ne me tuerez pas deux fois » est un roman est un roman noir qui brûle de rage, de douleur et d'une troublante humanité. Et là, on retrouve donc un Lotfi qui est quand même transformé et qui est prêt à ne pas forcément suivre une voie très légale pour arriver à ses fins. Il est toujours dans un esprit de vengeance et comme en face de lui, il a des djihadistes, et il n'hésite pas à s'allier avec ces deux malfrats un peu spéciaux. Et ça donne un roman très vif, plein d'humour aussi, parce que même si c'est cruel parfois, ça se lit très, très facilement. Et donc, c'est le septième de la série. Entre-temps, entre le sixième et le septième, on a deux livres qui sont d'un genre différent. Dix stations, où on a un homme qui, en Algérie, décide de revenir en arrière, dans sa vie en arrière, tout en étant dans un tram et où il voit les gens, suivant les quartiers qu'il traverse, voit des gens différents qui entrent et qui sortent de ce tram et ça le ramène à chaque fois à des souvenirs. Et puis l'autre livre qui s'appelle « Les filles du président », c'est l'histoire d'une femme qui vient de perdre son mari, qu'elle aimait beaucoup et qui se retrouve seule et qui a une idée. Elle veut retrouver des femmes, puisque des femmes qui ont, comme elles, vécu un moment particulier dans leur enfance. C'est quand on leur demandait de donner un bouquet de fleurs à Boumediene à sa sortie de l'avion. Donc elle fait une espèce de road movie entre ces femmes qui ont toutes des destins plus ou moins difficiles et tragiques ou en tout cas très différents les uns des autres. Et c'est un très beau roman.
Oui.
Il a aussi participé à deux livres collectifs, l'un toujours avec Chèvrefeuille étoilée. Mmh. C'était un livre qu'on avait fait pour SOS Méditerranée qui s'appelle Au cœur de l'errance, où il avait écrit un texte en s'inspirant de l'histoire du petit Aylan, ce petit garçon qu'on avait retrouvé mort au bord de la mer. Mmh. Et puis, il y a un livre qui va sortir aux éditions Caïman, qui est sur le Front populaire, où il a aussi écrit un texte. Mmh. Donc voilà. Mmh.
Donc c'est vaste comme...
C'est très vaste.
Il embrasse. Alors, c'est quand même courageux aussi, même si c'est sous forme de roman, de parler quand même de la malfaisance des terroristes actuellement, des djihadistes. C'est quand même très courageux de sa part, d'autant que voilà, ça montre bien quand même...
Mais bien sûr, vous avez des auteurs algériens qui sont pleins de courage. Vous savez,
oui, tout à fait.
Je citais tout à l'heure Anouar Ben Malek, il a quand même eu une fatwa pour un de ses livres,
Ben Malek. Lequel c'était de livre?
C'était Omaria, un livre qui pourtant parlait d'une jeune sarrasine au XVIIIe siècle qui se retrouvait en pleine Inquisition, qui se retrouvait obligée de devenir chrétienne. Mmh. Et ce livre lui a coûté cher. Mmh. Mais il a aussi écrit un livre sur la Shoah, ce qui est assez étonnant de la part d'un écrivain d'origine algérienne. Mmh. Et ce livre raconte l'histoire de trois hommes d'une famille juive allemande qui subissent l'un qui assiste au génocide des Namas et des Herero en 1905 dans ce qui est devenu la Namibie. Mmh. Et puis son fils et son petit-fils qui meurent dans les camps. Mmh. Donc voilà, moi je pourrais citer Yahya Belaskri aussi, j'en ai cité plein. Ouais. La littérature algérienne, elle ne se limite donc pas à deux noms.
Oui.
Que je ne citerai
que
pas.
Tu ne citeras pas, d'accord. Nous sommes d'accord. D'ailleurs, si vous voyez deux noms qui reviennent sans arrêt, vous saurez qu'il faut essayer de regarder un petit peu plus large que ça, que d'avoir une autre perspective. En tout cas, c'est vrai que ça donne envie de lire. Et donc, notre auteur, là, celui que vous allez présenter, Karim Khatan, il a fait donc beaucoup. Tu nous as cité ses derniers livres, mais tu peux nous citer. C'est un genre de saga, si j'ai bien compris, puisque on retrouve les mêmes héros un petit peu, non?
Alors tu viens de parler de Karim Khatan, c'est une erreur. Karim Khatan, c'est le Palestinien dont j'ai parlé au début.
Ah, pardon, excusez-moi.
Ici, il s'agit de Ahmed Thiab.
Karim, excusez-moi. Et voilà, Ahmed Thiab. Alors oui,
Ahmed
justement, tu peux nous parler un peu de ça.
C'est sept romans policiers, puisque on va surtout s'attarder sur eux. Comme je l'ai dit, ce sont des livres qu'on peut lire dans l'ordre, quoique, si j'ai bien vu, les premiers sont épuisés, mais peut-être qu'on peut les trouver dans des médiathèques ou autrement. Et on peut donc les lire dans l'ordre, ou si on les lit dans le désordre, c'est pas un drame, puisque en fait, c'est comme souvent dans les livres... dans les livres policiers, c'est surtout l'intrigue qui compte, plus que la vie de ceux qui sont à la recherche des criminels. Mais c'est toujours écrit avec... Il y a un style très riche, très drôle, et puis à la fois très percutant. Mm-hmm. Et franchement, quand vous entrez dans un de ces livres, vous en sortez deux jours après, au moins, vous oubliez même de manger tellement vous êtes pris dans l'histoire. Donc, et puis, c'est vrai que ces deux flics dont j'ai parlé, Lotfi et puis Kamel, sont des personnages très attachants. Mmh. Parce que ce sont des livres, effectivement, qui parlent d'horreur, parce que on a eu aussi la mafia chinoise, on a eu des... Là aussi, on a des gitans qui sont assez... virulents et tout, mais les personnages qui sont soit les victimes, soit ceux qui sont à la recherche de la vérité, ce sont des personnages souvent très lumineux et très attachants.
D'accord. Donc, voilà. Et là, évidemment, là, dans, avec ce dernier ouvrage donc, qui va être présenté, le 9, on a quand même un peu une vision de comment la difficulté de combattre les djihadistes, quoi, hein, et qui font quand même pas mal de dégâts, un petit peu, et aussi chez nous.
Oui,
en France.
Chez nous. Et là, cet opus-là, il est quand même carrément... Dans le nord de la
dans
France.
Dans le nord de la France, en
parce que Marseille,
ça.
Tout le monde dit que Marseille.
Oui, oui.
Mais non,
ouais,
il ne faut pas croire que les djihadistes se trouvent dans des endroits vraiment précis et qu'ils ne vaguent pas à travers la France ou d'autres pays, bien sûr. Donc voilà.
Et ça va être intéressant, en plus, d'avoir une version des ch'tis. Une version des ch'tis par quelqu'un qui est né au Maroc, au Maghreb, et voilà, qui a cette culture-là. C'est vrai que déjà pour nous dans le sud, c'est toute une découverte.
Mais
et ça va être intéressant.
En fait, l'autre fille, il est né chez les ch'tis, hein,
d'accord,
puisque son père, il habite la maison où le fils est né. Le fils est né,
oui,
en
d'accord.
deux mots. Et donc, c'est un retour aux sources qu'il fait.
Oui,
la mère est décédée depuis quelques années. Mais il avait des rapports très difficiles avec sa mère, puisque sa mère n'a jamais accepté qu'il soit homosexuel. Autant le père, finalement, avec le temps, a fini par aimer son fils parce que c'était son fils et sans porter de jugement sur sa vie. Autant la mère a toujours été très, très froide par rapport à ce qu'elle pense, un choix de vie. Mmh. Et les deux, donc Kamal et l'autre fille, sont vraiment des personnages attachants. Mmh. À la limite, parfois, je me demande, mais qu'est-ce que devient Kamal? Parce qu'on n'en parle plus maintenant. Peut-être qu'un jour, on retournera à Orange, j'en sais rien. Mmh. Mais en tout cas, en lisant ce livre, on s'attend à une suite quand même. Mmh. On ne peut pas laisser l'autre fille Benatar comme ça... dans la nature, je pense qu'il va revenir à un moment ou un autre, et peut-être qu'il reviendra avec son ami de l'autre côté de la Méditerranée, ou peut-être que Ahmed fera une pause et réécrira un livre qui n'aura rien à voir avec un livre policier, j'en sais rien.
Ça lui appartient, en tout cas, c'est sa liberté d'auteur.
Voilà,
en tout cas. Bon, donc, je vais proposer, après cet exposé vraiment très fourni, je vais proposer une petite pause musicale. Tu nous la présentes, Monique,
ah oui.
Que tu as choisi.
Alors, j'ai choisi exprès une chanson que je ressors à chaque fois que le racisme reprend du poil de la bête. C'est une chanson de mon chanteur préféré depuis toujours, Serge Reggiani. Mmh. Enfin, c'est pas de lui, mais c'est lui qui l'interprète, qui s'appelle L'Arabe. Elle est très peu connue parce qu'on la trouve pas tellement sur les albums. Mmh. Et donc, elle est un peu longue, elle fait 3 minutes 44, donc vous n'allez pas l'entendre jusqu'au bout. Mais je vous
peut-être,
conseille d'aller l'écouter
peut-être.
À YouTube. Si, peut-être. Ah bah, si,
peut-être.
Alors,
peut-être
ça
on va prendre le temps de
Et elle est magnifique. Moi, je trouve que c'est... Et elle montre justement comment il faut voir l'autre et ce que... Une épreuve peut apporter de positif à deux personnages qui sont de deux mondes différents.
Voilà, un message contre le racisme par Serge Reggiani.
Je t'ai trouvé dans le sable, t'étais au bout du rouleau. J'allais quand même pas l'arabe passer sans te donner d'eau. T'es bien le premier arabe à qui j'ai donné de l'eau. Qui t'a fait la route sous ce soleil-là? Après tout, fini le Rumi et fini le Crouillard. On est de pauvres croûtes dans le Sahara. Dans quatre ou cinq lunes, la ville jaillira, jaillira derrière la dune que tu vois là-bas. Derrière la dune que tu vois là-bas. on a marché dans le sable. Deux jours sans se dire un mot. Mais quand j'ai flanché l'arabe, tu m'as porté sur ton dos. T'es bien le premier arabe qui me porte sur son dos. Harassé de tempête, on s'est écroulé, épuisé. Et là, comme deux bêtes, on s'est enroulé dans la même veste, sous le vent glacé. Regarde l'arabe, bon Dieu, pince-moi, lève-toi. C'est elle, c'est la ville, debout fait néant. Dans mes bras d'arabe, nous sommes vivants. On est arrivé, l'arabe. L'amitié s'arrête ici. On s'est séparés sans larmes. À peine adieu et merci.
Eh bien, nous revoilà dans les studios. C'est toujours tellement accueillant qu'on presque on s'endormirait. On vient d'entendre une belle chanson par Serge Reggiani, l'arabe, qui nous parle vraiment de la découverte de ces liens qu'on peut avoir en deçà du racisme, parce que voilà, c'est une plaie quand même qui est beaucoup trop présente encore dans notre monde. Et je suis toujours en compagnie de Monique Serrault-Chaïbi, et c'est toujours Aurélien, à la technique, qui nous accompagne. Voilà, donc Monique... oui, il y a une. On a parlé énormément d'entrée de littérature avec la passion qui t'accompagne, de la littérature du Maghreb entre autres, plus de l'annonce de ce poète palestinien qui vient dans deux jours à Montpellier. Et on reparlait de l'association Chèvrefeuille Étoilée. De l'association que tu représentes quand même encore, même si elle est un petit peu en sommeil. Donc tu peux nous en parler de cette association.
Alors Coup de Soleil, c'est une association qui est née dans les années 80 et qui essaye de rassembler les deux côtés de la Méditerranée, oui, et de lutter contre tous les ferments justement de racisme. Donc il y a des auteurs qui sont des auteurs qui viennent du Maghreb, mais qui sont aussi des auteurs qui peuvent être juifs, qui peuvent être chrétiens, qui peuvent être de toute obédience.
Même les athées,
bien sûr. Parmi tous les auteurs de ces cinq pays, j'en connais qui ne sont pas forcément pratiquants dans une religion. Et donc, ça permet de mettre un pont entre les deux rives de la Méditerranée, de faire connaître la littérature, mais aussi le cinéma, la philosophie, des expositions, etc. Enfin, tout ce qui peut rapprocher les gens parce que quand on ne connaît pas, c'est là où on n'aime pas. Donc je vous invite vraiment à vous plonger dans la littérature du Maghreb. Ne pas croire que souvent c'est une littérature violente et tout, pas vrai. Vous avez des auteurs qui sont drôles, vous avez Fouad Laroui qui est marocain, lui qui a des livres qui sont très drôles parce qu'il joue beaucoup sur les clichés entre les peuples. Et bon, vous avez effectivement des auteurs policiers. Vous avez Yahya Belaskri, qui est un homme qui parle de choses dures, mais avec toujours des personnages qui sont extrêmement lumineux. D'ailleurs, Yahya Belaskri a créé avec plusieurs personnes, dont Hubert Haddad, une revue qui paraît tous les ans, qui s'appelle Apulée, qui est une revue énorme qui comprend des textes d'auteurs vivants ou qui ont disparu, qui sont tous autour de la Méditerranée. Une très grande revue que je vous recommande aussi de feuilleter. C'est hyper riche. Et Quand on parle du Maghreb, la plupart des gens pensent que ça ne concerne que l'Algérie, la Tunisie et le Maroc. Mais non, il y a aussi la Libye. Bon, en ce moment, vu la situation libyenne, on voit peu ressortir d'auteurs de ce pays. Mais on avait lu la compagnie des Tripolitaines. Alors malheureusement, je ne me souviens plus le nom de l'auteur qu'on avait beaucoup aimé. Et puis, il y a Bérouk en Mauritanie qui est un... qui écrit comme parlent les griots, qui est un auteur fabuleux. Et puis, bon, ça me permet de parler des éditions Elizade, qui sont des éditions de Tunisie. D'ailleurs, Karim Khatan, je viens de dire, de parler de qui, là ? Hubert Haddad, tous ces gens-là. Yamen Manaï, il y a plein d'auteurs qui sont édités chez Elizade. C'est une maison d'édition qu'on reconnaît facilement à ses couvertures, qui sont très jolies. Et puis, vous avez les éditions Zulma, vous avez les éditions Barzac en Algérie. Alors, le problème avec Barzac, c'est que c'est difficile d'avoir les romans qui arrivent en France. Mais, je sais pas, il y a une foison d'auteurs. Alors, pour en revenir à Chèvrefeuille étoilée, c'est une maison d'édition qui est un peu particulière puisqu'elle a été créée il y a 25 ans.
25 ans.
Par des femmes, pour des femmes.
Ouais.
Et qui sont toutes en lien avec la France et le Maghreb.
Le Maghreb, oui.
Et particulièrement l'Algérie, d'ailleurs. Et c'est donc une maison pour les femmes et où les écrivaines, enfin c'est surtout des écrivaines qui sont publiées. Sauf, j'ai cité tout à l'heure deux recueils, celui pour SOS Méditerranée au cœur de l'errance et celui pour la Palestine. Là, on a des hommes qui participent. Quand ce sont des ouvrages collectifs, il y a les deux.
Donc, et ça reste réservé aux femmes, Chèvrefeuille étoilée, alors
si vous,
aux, aux autrices femmes.
Sinon, oui, c'est plutôt des autrices femmes.
D'accord.
L'année dernière, il y a un très beau recueil qui est paru. C'était 22 autrices qui écrivaient sur leur enfance. Et c'est un très, très beau recueil où il y a des textes très touchants non, c'est...
Qui s'appelle comment le...
Eh bien, justement, je suis en train de me poser la question. Ah, et en plus, hier, j'ai relu un texte de ça.
Non, mais le mieux, c'est d'aller sur le site
de Chèvrefeuille. Oui, aller sur le site de Chèvrefeuille étoilée. Et désolée de ne pas avoir...
Et puis sur les autres sites aussi, des auteurs, des éditeurs que tu as cités aussi, non ? Les éditeurs Zulma...
Ah oui, bah, Elizade Zulma,
On doit trouver quand même de quoi se...
Et bah, regardez littérature du Maghreb, bah, vous déjà vous trouverez pas mal de possibilités de lecture. Qu'est-ce que je pourrais ajouter en plus?
Oui, de toute façon,
Il y a aussi des. J'ai parlé essentiellement des écrivains de romans, mais bon, il y a des pièces de théâtre, il y a des poèmes. C'est une littérature qu'on connaît très peu et qui est d'une grande richesse, vraiment une grande richesse. Donc,
et est-ce que Coup de Soleil, est-ce qu'il y a un site aussi Coup de Soleil ?
Oui, il y a un site Coup de Soleil. Voilà. Et puis normalement, il y a chaque année le Maghreb des livres, comme je l'ai dit tout à l'heure, et où on rassemble énormément de... Il y a entre 150 et 200 auteurs qui écrivent sur le Maghreb ou qui sont originaires du Maghreb. Il y a aussi des livres historiques. Hein. Il n'y a pas que de la littérature. Il y a de la philosophie, de l'histoire, etc. Et c'est un moment dans les magnifiques salons de l'hôtel de ville où on reçoit un public très, très nombreux et assez fidèle aussi. Et chaque année, c'est réservé.
Pardon ? À quelle période à peu près ?
Normalement, ça devait être fin mai, mais je n'ai pas eu la confirmation. Et chaque année, c'est un pays, un des trois pays les principaux qui est invité. Donc, soit l'Algérie, soit la Tunisie, soit le Maroc. Mais ce qui n'empêche pas qu'il y a des auteurs d'autres origines. Cette année, il va y avoir un spécial Driss Schreiby. Puisqu'il est né en 1926, donc ce sera son centenaire, et c'est son épouse Sheena Schreiby, qui est d'origine écossaise, qui sera là pour présenter les œuvres de son mari.
D'accord, donc c'est vraiment un temps fort aussi à Montpellier. C'est à Montpellier, ça ?
Non, ça, c'est à Paris.
C'est à
l'hôtel de ville de Paris.
Ah oui,
non,
ok. À Montpellier, ah oui, comme tu disais, l'hôtel de ville, oui, c'est vrai que...
À Montpellier, on a eu, en 2013, un spécial auteur du Maghreb qui a été trois jours qui ont été intenses et très très réussis. Merci Régis Penalva qui était à l'origine donc de cette proposition et où on nous avait demandé à coup de soleil de participer à ce. Et pourtant, on a eu un temps épouvantable. Il a plu pendant deux jours. On était obligé de faire attention que les livres ne soient pas mouillés. Il y avait un vent pas possible. Mais malgré ça, ça a été une journée une année particulièrement réussie où on a accueilli Jamil Ramani et Michel Canesi qui écrivent depuis longtemps ensemble. On a accueilli Abdella Taïa qui est un jeune... Enfin, je dis jeune, mais il paraît toujours jeune, mais maintenant il a dépassé les 40 ans. Donc Abdella Taïa qui écrit beaucoup sur l'homosexualité au Maroc.
Ça, c'est un sujet. Encore.
Mais qui a Le Bastion des larmes, son dernier roman, est à pleurer tellement c'est beau. L'ennui, c'est que quand j'en cite, j'ai l'impression que j'en oublie. Vous avez Lamia Berada, vous avez Yasmine Chambi qui sont d'origine marocaine. Vous avez Maï Binbin qui lui aussi est marocain, mais qui lui a la particularité d'être écrivain, sculpteur et peintre. Pardon à tous ceux que j'ai pas cités, je vous aime quand même.
Tu n'es pas obligé de tous les citer quand même, je crois pas. On ne peut pas exiger non. Ça. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, tout à l'heure, tu as évoqué cet auteur qui écrit pas mal sur l'homosexualité au Maroc.
Oui.
Tu peux nous en dire quelques mots parce que c'est un sujet actuellement
qui nous préoccupe
avec
ce qui se passe
l'histoire en Afrique de l'Ouest.
Ce qui se passe avec le Sénégal. D'ailleurs, à ce propos, je vous
pas
conseille...
Pas qu'au Sénégal, hein, pas qu'au oui, Sénégal.
Non, mais c'est ce qui est connu. En parle oui. beaucoup. Je vous conseille d'ailleurs justement de Bougarsar, celui qui a eu le Goncourt, un livre qu'il avait écrit précédemment qui s'appelle « De purs hommes ».
C'est
un livre brûlant et magnifique. Et
d'une grande délicatesse, malgré la dureté du thème. Quoi.
Alors, Abdella Taïa, il est d'une famille pauvre, de Salé, au Maroc. Et il vivait dans un appartement où son père avait sa chambre, son frère aîné avait sa propre chambre, et lui et son petit frère dormaient avec la mère et les sœurs. Et les sœurs jouaient un peu à la poupée avec leur petit frère et tout. Et donc il a eu une enfance assez particulière. Mais comme c'était une famille pauvre, il ne parlait que l'arabe. Et ils avaient des cousins qui étaient dans des branches plus riches, qui eux parlaient le français. Donc un jour, il a voulu apprendre le français parce que c'était la langue des riches. Et puis, bon, il a été pris sous son... Un homme d'âge mûr l'a pris un jour sous son aile et l'a emmené en Europe. Son premier livre s'appelle d'ailleurs... comment ça s'appelle?
Ça te reviendra, ça te
reviendra. Oh mince. Bon, oui, il parle de cette expérience-là et tout. Et donc, l'essentiel de ses livres parle justement de la situation de l'homosexualité au Maroc et de l'hypocrisie qu'il y a, puisqu'il parle de pères de famille bien pensants qui vont dans les hammams pour tripoter les petits garçons. Donc, c'est un. Et puis, c'est écrit, c'est une langue très belle. Très simple, mais pas simple dans le mot, dans le sens, dans un sens négatif. Hein. Je veux dire que ce sont des mots qui touchent. Chaque mot qu'écrit Abdella, c'est un mot qui touche. Et il faut le lire.
D'accord. Et tout à l'heure, tu as évoqué aussi des pays qui sont très peu cités dans le Maghreb et pourtant qui en font partie. Donc, tu as parlé de la Libye et de la Mauritanie.
La Mauritanie, donc, j'ai parlé de Berouk, qui est le plus connu de tous les auteurs et qui a écrit une bonne dizaine de romans qu'on a reçus, nous aussi, à coup de soleil, à plusieurs reprises. Et je pourrais parler d'Intagrist et l'Ansari aussi, qui, lui, il vit à Nouakchott, mais en fait, c'est un... Il est du Niger, hein, c'est un Touareg.
Ah, d'accord.
Et il est à la fois écrivain et cinéaste. Il vient de sortir un film récemment. Et son premier roman, il a vécu 10 ans en France. Hein, il a été pris... par une famille française. Donc il a fait 10 ans d'études en France, puis il est reparti là-bas. Donc son premier livre, c'est un peu son retour dans le désert, sa réappropriation de son univers d'origine. C'est très, très joli ce qu'il écrit et ce qu'il filme.
Ça me donne bien envie parce que c'est tellement oublié, la Mauritanie comme pays. Mm-hmm. Et puis voilà, tu parlais des Touaregs, il y a le désert, enfin c'est vraiment...
Il y a Idoumou aussi qui est un écrivain dont on avait lu un livre. Pareil, je n'ai pas préparé ça, je ne me souviens plus le titre, qu'il m'en excuse. Mais bon, il y en a tellement que je suis un peu...
D'accord. Donc, j'espère que dans tout ça, vous allez pouvoir... Et puis sinon, il faut consulter les sites aussi pour vous inspirer, où vous retrouverez sûrement des titres et des noms que Monique a cités. Et donc, Monique, j'aimerais qu'on récapitule un petit peu, que voilà, tu nous dises un peu les titres endroits, les lieux où on peut trouver ces titres-là, et etc., que tu récapitules un petit peu tout ça.
Alors...
Et les événements dont nous avons parlé au début.
Il m'arrive d'aller dans les librairies montpelliéraines pour leur dire qu'ils ont un choix très restreint d'auteurs du Maghreb. Donc, je sais que, par exemple, Le Grain des Mots, qui d'ailleurs va nous apporter les livres d'Ahmed le Neuf, je leur ai proposé des titres. Pour ça, ils sont très ouverts. Mais je trouve que, justement, il y a très peu... Il y a ceux dont je n'ai pas parlé qui sont partout. Mais c'est dommage qu'on ait aussi peu d'écrivains du Maghreb dans les rayons des librairies montpelliéraines. Ça, c'est une chose qu'il faudrait améliorer, à mon avis.
D'accord. Et donc, pour ce résumé, vous allez recevoir, tu vas recevoir, entre autres...
Ahmed Thiab.
Voilà, Ahmed Thiab. Et dans 2 jours, là, c'est Karim Khatan qui est palestinien. Mais bon, on n'a rien contre la Palestine, n'est-ce pas ?
Bien au contraire.
Bien au contraire.
Et puis c'est un homme qui a des mots superbes. D'ailleurs, qui est souvent invité pour parler de la Palestine. Il ne se contente pas d'écrire des romans ou des poèmes. Il parle aussi beaucoup de la situation. Il est souvent invité pour ça. Je pense que le fait qu'Alain Damasio l'ait pris sous son aile à un moment, ça a dû... Parce qu'Alain Damasio, c'est aussi quelqu'un d'extrêmement généreux, qui est dans le premier recueil de Chèvrefeuille étoilée. Au cœur de l'errance, et qui est surtout un auteur de science-fiction. Qu'est-ce que je peux ajouter?
Non, c'est simplement tu nous rappelles le lieu, l'heure.
Alors, le 9, alors le 2 d'abord pour parler Karim, c'est au 13 vents. Et puis le 9, c'est ici au Carrousel. Je dis ici parce qu'on est dans les mêmes locaux que la salle où on va recevoir Ahmed. Donc, c'est à 18h30 au Carrousel. Juste à côté du dôme.
Voilà.
Donc, la rencontre d'Ahmed Thiab. Au dôme ou dîner avec nous après, si ça vous chante.
D'accord.
Puisque nous emmènerons Ahmed manger au dôme. Donc, c'est le 9.
À 18h30.
Et ce sont les associations Baraka et France-Algérie-Occitanie qui seront à l'origine de cette invitation.
Voilà, et puis rapidement, je vais vous rappeler, vous annoncer aussi la course solidaire qui est réalisée par Action contre la faim. C'est le 12 avril au domaine de Restinclière et l'accueil, c'est dès 10h. Voilà, et puis vous pourrez vous inscrire soit en ligne avec Action contre la faim, soit en présentiel quand vous y serez. Course solidaire d'Action contre la faim pour lutter contre la faim. Donc merci Monique pour avoir... Oui, tu as quelque chose à rajouter ?
Tout petit truc à ajouter. J'ai parlé d'Anouar Ben Malek. Il est prévu qu'on le reçoive. On attend juste la date qui lui conviendra.
Bon, mais on se reverra pour Anouar Blalek. Et donc, merci beaucoup à Aurélien à la technique. Merci Monique pour ta visite très documentée en littérature. On va essayer de s'y retrouver.
Et très bafouilleuse.
Voilà. Je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir à tous.
Au revoir, bonne semaine.